Les expos, les ciné, les théâtres, les concerts, tout a repris. Une offre immense. Alors pour vous y retrouver, la Tribune des Critiques vous aide à faire votre choix avec nos partenaires. David Caviglioli, bonjour.
Bonjour.
De l'Obs et Guénaël Le Soleux de la revue L'Éléphant, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez débattre de l'expo événement à Paris, à la Fondation Cartier, Damien Hirst, Cherry Blossoms, les cerisiers en fleurs.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre point médiation sur l'exposition de Damien Hirst.
This series of paintings are called The Cherry Blossoms. There's 107 paintings in the series, and I've been working on them for 3 years.
Et ce sont des œuvres intitulées « Les cerisiers en fleurs », nous dit ici l'artiste anglais de 56 ans, une série de 107 peintures, et j'y travaille depuis 3 ans, précise-t-il. Alors, il nous raconte dans ce film, disponible sur le site de la Fondation Cartier, comment il a peint ces toiles très grand format, plusieurs mètres de hauteur, des cerisiers en fleurs représentés par des points de peinture à l'huile, des roses, des rouges, des verts, des bleus, sur des fonds bleus sans nuages. C'est très gai, très joyeux, très vivant. Guénaël Le Soleux, vous avez aimé ?
Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis sentie immergée. J'ai plongé dans les fleurs. J'ai trouvé ça très joyeux. J'ai compris pourquoi les Japonais se précipitaient dans les jardins au moment de les floraisons. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Le côté spectaculaire de ces toiles immenses.
Alors, il y a le côté spectaculaire, il y a la couleur, il y a l'accumulation. Moi, ça m'a fait penser, par exemple, au Nymphéa de Monet ou dans la salle de l'Orangerie. On est dans ces salles blanches avec toutes ces fleurs qui sont les mêmes. On pourrait penser que c'est toujours le même tableau puisque ce sont que des cerisiers. Pour moi, je l'ai vu différemment.
David Caviglioli.
J'hallucine un peu d'apprendre qu'il a passé 3 ans à faire ça.
107 toiles quand même.
107 toiles.
Il y en a 30 présentées à la Fondation Cartier.
Il les fait tout en même temps. Il y a une vidéo où on le voit faire. Bon, il appuie son pinceau sur la toile. Je ne sais pas, vous dites des roses, des verts, des bleus. Ils sont moches, ces roses, ces verts et ces bleus. Oh. Il y a un vrai problème de couleur, je trouve, chez Damien Hirst. Notamment les verts. C'est difficile, les verts à faire. Il y a aucune émotion, il y a rien. Vous citez les nymphéas. Ça m'a beaucoup fait penser au tableau un peu végétalisant de Klimt. Rosier sous les arbres, ces champs de coquelicots, etc. Où là, on est saisi par quelque chose, par une émotion. Là, il y a rien. On n'a pas du tout l'impression d'être immergé dans ces arbres. Il n'y a pas de raccourci sur les branches. Il n'y a pas de perspective. Il y a juste des points, des points, des points, des points. Ça ne produit rien. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a aucune idée dans cette toile-là.
Guénaël Le Soleux.
Non, alors moi je trouve que justement on voit une évolution, c'est-à-dire que lui-même le dit, et peut-être que le confinement est passé par là, et au début il avait vaguement l'idée de faire des arbres, et effectivement au début on est dans l'abstraction, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui ressemble à tout ce qu'il a fait depuis 20 ans autour de ses points, de ses taches de couleur, donc on retrouve un peu cette idée, et progressivement, peut-être donc à la faveur du confinement où il a été seul dans son atelier, où il s'est rappelé des peintures que sa mère faisait quand il avait 4-5 ans, sa mère peignait des cerisiers en fleurs, et il s'est dit, tiens, et si je peignais des arbres? Et peut-être que là, il s'est dit, je vais me donner la possibilité de peindre des arbres qui ressemblent à des arbres, alors que ça faisait 30 ans qu'il peignait des points de couleur, et je suis d'accord, ce sont des points de couleur.
Mais ça ne ressemble pas à des arbres. Ça ne ressemble pas à des arbres.
Oh bah, y a quand même des branches, il y a des fleurs.
Des branches. Toute plate. Enfin, je sais pas. À vrai dire, on s'en fout. Le problème, la question, c'est celle de l'émotion. Oui, c'est grand, mais bon, tout le monde fait du grand, quoi. C'est pas tellement le problème. Le truc avec Damien Hirst, c'est que ça fait 30 ans maintenant que, en parallèle de sa carrière d'artiste provocateur conceptuel, à faire des têtes de vaches mortes.
C'est ça. Il change complètement de registre. On le connaît plus dans le glauque, en fait, Damien Hirst, quand il coupe des animaux en deux, qu'il les met dans des aquariums de formol, et qu'il fait passer le visiteur entre les deux.
Là, c'est quelque chose. Quand vous vous retrouvez face aux requins. Il vous arrive vraiment quelque chose.
Là, il change complètement de registre.
Voilà, mais depuis le début, en parallèle, il a ses moments de mauvaise peinture. C'est pas un peintre. C'est un énorme artiste, mais c'est pas un peintre.
Il y a quand même un geste pictural. Il y a beaucoup de références. Il y a Jackson Pollock, notamment l'action painting. Vous avez retrouvé ça, par exemple,
Guénaël? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec la notion de ressemblance. Depuis quand la peinture doit-elle ressembler au réel? Enfin, c'est pour moi, on n'est pas le principe de l'impressionnisme, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était une impression. Et on est véritablement, enfin, de mon point de vue, on est là-dedans.
Oui, je défends pas la ressemblance. Son effet échoue, je trouve. Il a voulu reprendre aussi le principe d'une autre série de peintures, là aussi très laide, les veil paintings qu'il avait fait il y a quelques années où il était persuadé que ça créait une sorte d'effet d'optique où on voyait mais on ne voyait pas. C'est pas vrai. Ces toiles échouent. Vraiment, en plus j'étais déçu, j'en attendais beaucoup. Ça a l'air beau, ce rose, etc. Puis on se retrouve face à ça. C'est paresseux. C'est paresseux.
Damien Hirst, c'est aussi l'un des artistes contemporains les plus chers du marché actuellement. C'est aussi pour ça qu'on va le voir, Guénaël Le Soleux.
Oui, probablement. On veut avoir vu l'exposition de Damien Hirst. C'est la première fois qu'il est en France. Sa grande exposition pharaonique, c'était à Venise la dernière fois où il a travaillé pendant 10 ans avec des centaines d'assistants. Là, il a travaillé seul.
Pendant le confinement,
pendant le confinement, je trouve que justement, c'est un nouveau pas de côté qu'il fait. Il rompt avec tout ce qu'il a fait jusque-là.
Je voudrais citer juste une phrase de Damien Hirst qu'il avait dite dans sa jeunesse au début des années 90. Il avait dit « J'ai hâte de pouvoir faire du mauvais art et de m'en tirer. Pour le moment, si je fais certaines choses, les gens me diraient d'aller me faire foutre. Mais au bout d'un moment, vous pouvez vous en tirer. Bah, » il a réussi son coup.
C'est la première fois qu'il est exposé dans une institution, hein, la Fondation Cartier. Sans doute la dernière fois que l'on verra ces toiles ensemble parce qu'elles appartiennent à des collectionneurs privés. Allez vous faire votre idée à la Fondation Cartier, boulevard Raspail, rive gauche à Paris, ouvert tous les jours sauf le lundi. L'expo Damien Hirst est jusqu'au 2 janvier 2022, vous avez un petit peu le temps. On passe à vos coups de cœur, messieurs, dames. David Caviglioli, vous nous emmenez voir une autre expo à Monaco, la rétrospective Alberto Giacometti dont on a retrouvé la voix dans nos archives.
J'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'est exactement le domaine où j'y comprenais le moins. J'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris.
C'est une rétrospective absolument magnifique et extrêmement bien menée, très émouvante. On reparcourt toute la vie de Giacometti depuis ses débuts, un peu sous la houlette de son père, peintre impressionniste ou néo-impressionniste. Son passage par le surréalisme, son divorce avec Breton, puis son travail de plus en plus obsessionnel sur la figure, sur le visage, la forme humaine. Il y a même scientifiquement, la rétrospective est très solide. Une grande intuition des commissaires de l'exposition, c'est d'avoir rapproché la sculpture de Giacometti des paysages de son enfance. Dans les Grisons en Suisse, paysages montagneux avec des grandes montagnes, des épicéas, on se rend compte que chez Giacometti, les hommes sont des roches. Quand ils sont debout, ils sont grands, élancés, fins, comme des grands arbres de montagne. Une expo magnifique.
Alberto Giacometti, la rétrospective, le réel merveilleux à Monaco, jusqu'au 29 août. Et Guénaël Le Saulleux, vous nous avez apporté un très beau livre, l'Atlas de Tadao Ando. Vous connaissez son nom, c'est l'architecte qui a rénové la Bourse de Commerce à Paris pour y accueillir la collection Pinault. Écoutez ce qu'en disait notre spécialiste à la rédaction, Isabelle Pasquier.
Spectaculaire, la Bourse de Commerce, c'est de la haute couture architecturale. Il a greffé une peau de béton de 9 mètres de haut qui délimite une rotonde entre ciel et terre.
Alors cet atlas de Tadao Ando.
Alors effectivement, c'est mon coup de cœur parce qu'il répertorie 100 réalisations de Tadao Ando dans le monde entier. Donc Tadao Ando, sa grande spécialité, c'est le béton, on vient de l'entendre, qu'il marie en général avec des plans d'eau et des baies vitrées. Et donc Philippe Séclier, qui est un journaliste, est tombé en amour de cette œuvre et a voulu la répertorier dans le monde entier. Et le résultat est assez saisissant parce qu'en fait, chacune des réalisations de Tadao Ando est documentée. Tout a été photographié au téléphone portable. Toutes les photos sont de la même taille. Et ça donne à voir finalement une sorte de kaléidoscope de ce qu'est le béton et des effets du béton. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit qu'au-delà du béton, ce qui est important dans l'œuvre de Tadao Ando, c'est la lumière. En fait, l'effet sur la lumière est assez spectaculaire et on se rend compte qu'elle constitue véritablement un élément architectural de Tadao Ando. Et donc, les reflets, les contre-jours, les ombres sont magnifiés par ces formes d'ailleurs du béton qui sont assez extraordinaires, qui paraissent extrêmement légères et extrêmement variées. Et donc, on découvre une nouvelle dimension de l'espace.
L'Atlas de Tadao Ando par le photographe Philippe Seclier aux éditions Xavier Barral. C'était la Tribune des Critiques, David Caviglioli de l'Obs. Merci à vous.
Merci.
Guénaël Le Saulleux de la revue L'Éléphant. Merci à vous aussi.
Merci.